8h. Journal, bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Carlos Ghosn, menottes au poignet pour se défendre à Tokyo. Première déclaration publique de l'ancien patron de Nissan sous écrou depuis des semaines. Il dénonce de fausses accusations, une détention injuste. Nous serons à Tokyo dans un instant, ainsi qu'à Flins devant l'usine Renault, où les salariés n'ont pas tellement de commisération vis-à-vis de leur PDG. Un fichier anti-casseurs pour pacifier les manifestations après l'annonce d'Edouard Philippe hier soir. Nous serons avec des gilets jaunes à un rond-point. Leurs paroles, vous allez les entendre, sont très dures vis-à-vis de la police. Et à l'heure où la France insoumise est accusée par le gouvernement de cautionner les violences, c'est Clémentine Autain qui répondra à vos questions dans 20 minutes, Nicolas.
Voilà, vous avez tout dit. Il me reste plus qu'à inviter les auditeurs à intervenir. 01 45 24 7000, l'application France Inter et les réseaux sociaux.
À la une également, le salaire de Chantal Jouanneau et des hauts fonctionnaires en question. La campagne européenne de Benoît Hamon au porte-à-porte. Une troisième semaine sans salaire pour 800 000 fonctionnaires américains. Et du cinéma, aussi bien que le théâtre. Edmond d'Alexis Michalik, une réussite, nous dira Stéphane Capron.
France Inter.
Quelques minutes pour se défendre publiquement après presque 2 mois de détention. Ainsi va le système judiciaire japonais que nous découvrons avec l'affaire Carlos Ghosn, arrêté pour des soupçons de dissimulation de revenus, tenu au secret depuis sur le tatami de sa cellule de Tokyo, avec 3 bols de riz par jour. Il en est sorti brièvement aujourd'hui, direction le tribunal, où il s'est vu expliquer pourquoi il restait en prison. Lui a clamé son innocence. Avec nous Isabelle Raymond, envoyée spéciale de France Inter à Tokyo. Bonjour Isabelle.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Le patron déchu de Nissan, Isabelle, a esquissé sa ligne de défense.
Oui, et sa défense est inscrite déjà en quelque sorte dans sa conduite, dans son apparence tout à l'heure au tribunal. Celle d'un homme qui a certes perdu du poids, est apparu menotté en chaussons verts en plastique, mais en costume sombre et parlant d'une voix forte et assurée. C'est donc un homme déterminé qui est apparu pour sa première apparition publique depuis son arrestation mi-novembre. Carlos Ghosn a lu en anglais un texte qu'il avait préparé. « Je suis innocent », a-t-il dit, « j'ai consacré 20 ans de ma vie au redressement de Nissan jour et nuit. L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan a récusé point par point les chefs d'accusation. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir notamment utilisé l'argent de Nissan pour rembourser un ami saoudien qu'il avait aidé à compenser des pertes personnelles pendant la crise de 2008. Il réplique que c'est faux, qu'il aurait pu à ce moment-là décider de prendre sa retraite pour s'occuper de ses problèmes personnels, mais qu'il a préféré rester en poste pour redresser l'entreprise également, secoué par la crise. Un capitaine ne quitte pas le navire en pleine tempête, c'est ce qu'il a déclaré au juge. Florence, une déclaration de 10 minutes au total.
Alors rapidement Isabelle, pour l'instant Carlos Ghosn reste en prison jusqu'à vendredi. Est-ce qu'il a une chance de sortir à la fin de la semaine ?
Alors cette audience publique réclamée par ses avocats ne change rien au cours de la procédure. D'ailleurs, la prochaine date de sortie théorique de Carlos Ghosn, c'est ce vendredi. Mais vu l'absence d'aveu du patron de Renault, le procureur a peu de chances de vouloir le voir sortir de prison. D'où la manœuvre de ses avocats qui sont en ce moment en train de tenir une conférence de presse devant une salle pleine à craquer de journalistes japonais et étrangers. Eux aussi démontent l'accusation pour tenter de convaincre au moins l'opinion publique que leur client est innocent.
Isabelle Raymond en direct de Tokyo avec Arthur Gerbeau. Carlos Ghosn qui reste patron de Renault qu'il dirige depuis 14 ans, 48 000 salariés en France. Comment voit-il le naufrage nippon de leur PDG ? Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous êtes devant l'usine de Flins dans les Yvelines. On y fabrique des Clio, des Zoé, des Nissan Micra et on y discute du patron, Maxime, sans grande clémence apparemment.
Ouais, il y a ceux comme Kamel, intérimaire, à la chaîne. Jamais il n'aurait cru voir une telle image de Carlos Ghosn.
C'est vrai que ça fait bizarre, un homme puissant comme ça. 40 jours de garde à vue, c'est ça. Puis j'ai lu hier qu'il a perdu 10 kilos quand même. Ça doit pas être facile pour lui.
Et ceux comme Antoine, 25 ans de Renault derrière lui et aucune forme de compassion au moment d'embaucher aux alentours de 5h ce matin.
Il y a ce qu'il mérite. Hein.
Car Carlos Ghosn a beau clamer son innocence à des milliers de kilomètres, eux, les ouvriers qui suent pour lui tous les jours, toutes les nuits, ont déjà suffisamment à faire avec leurs soucis.
Nous, on est là, on travaille dur, on paye l'impôt, on paye tout, hein. On vole pas l'État et voilà. S'il est innocent, qu'il le prouve, c'est tout, c'est fini, voilà.
Carlos Ghosn qui juge ses conditions de détention injustes, il n'en faut pas plus non plus pour indigner Ali Kaya à la CGT.
On a 14 minutes de pause pour se restaurer, pour aller aux toilettes, pour fumer. Vous voyez, 14 minutes de pause ce matin, ceux qui sont rentrés. Eh ben, il n'est pas habitué, ben, c'est pas nous qui allons le pleurer.
Les larmes, on lui laisse, commente encore un salarié. Nous, par nos efforts, toutes ces années, on lui a déjà trop donné.
Maxime Debs, merci, devant l'usine Renault de Flins avec Marc Garvenès.
Il est 8h05, l'ultra-fermeté face à l'ultra-violence, c'est la nouvelle doctrine du gouvernement après le dernier samedi de manifestations et d'affrontements.
Doctrine incarnée par Édouard Philippe à la télé hier soir pour préserver, dit-il, la liberté de manifester. Le Premier ministre annonce une loi anti-casseurs, pouvoir ficher les casseurs, leur interdire de défiler à l'image du fichier des hooligans, pouvoir pénaliser le port de la cagoule et punir ceux qui participent à des manifestations non autorisées. Annonce suivie par les gilets jaunes du rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen et réaction hostile recueillie par Mathilde Himy.
Ils étaient prêts pour le rendez-vous. Portable allumé à 20h, écoute attentive du Premier ministre, désapprobation sur le durcissement en cas de manifestation non déclarée. Laura éclate à la fin de l'interview.
Il y en a marre, il attise la haine. Ce qui crée l'insécurité, c'est la police.
Françoise, bientôt avec une petite retraite, s'inquiète du réarmement des forces de l'ordre.
Il n'a pas développé. Avec les flashballs et les trucs assourdissants, il y a des gens qui perdent l'audition à vie, un œil à vie, une main à vie. Il y a des flics blessés, je suis bien d'accord, mais ils ont choisi leur métier.
Il y a aussi des positions plus extrêmes, comme ce jeune homme déjà arrêté 2 fois pour violence avec arme. Il risque 3 ans de prison s'il récidive. Il parle de la vie dure de ses parents et grands-parents, raconte qu'il n'était pas violent au début du mouvement. Il ne se sent ni hooligan, ni radical.
Énervé, un peu violent, d'accord, mais pas radical. Quand ça va se radicaliser, ils vont comprendre le sens du mot guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils organisent? Ils tirent au flashball dans le tas, ils savent même pas sur qui ils tirent. Ils ont peur, ils savent même pas quoi faire. De nature à m'arrêter, pas du tout. Au contraire, c'est de nature à me donner encore plus envie d'y aller. On passe par derrière, t'arrives, tu frappes, tu repars. T'arrives, tu frappes, tu repars.
Il affirme que certains se constituent de nouvelles munitions pour faire encore plus mal aux policiers samedi prochain. Une manifestation à laquelle tous participeront, violents assumés et non violents.
Un reportage signé Mathilde Dehimy. La loi anti-casseurs pourrait être examinée dès le mois prochain au Parlement. Détail sur franceinter.fr. En attendant, le dispositif sera de nouveau renforcé samedi prochain au même niveau qu'à la mi-décembre, avec 80 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 5 000 à Paris. Lui a cassé du gendarme samedi dernier à Paris. L'ancien boxeur Christophe Détinger est en garde à vue depuis hier, après s'être rendu à la police. Et l'homme fait l'objet d'un élan de solidarité de la part des Gilets jaunes. Une cagnotte sur Internet a déjà réuni plus de 115 000 euros de dons.
Il est 8h08 et voilà le premier débat du grand débat.
Il ne commencera que le 15 janvier, mais le salaire de Chantal Jouanneau qui va l'organiser fait polémique depuis hier. 14 500 euros bruts par mois, plus qu'un ministre, perçu depuis mars dernier pour sa fonction de haut fonctionnaire, sans lien avec le débat. Cyril Gradiani, on est loin d'un salaire de Gilets jaunes.
Le salaire de Chantal Jouanneau, présidente de la méconnue Commission nationale du débat public, 175 000 euros par an, est presque aussi élevé que celui d'un autre président, le président de la République, qui touche près de 180 000 euros par an. Mais elle n'est pas une exception. 190 000 euros pour le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, quand le président de l'Autorité des marchés financiers émarge, lui, à près de 240 000 euros par an. Des aberrations dans le système de rémunération de ces autorités indépendantes, balance un ministre, honteux, lâche un haut responsable d'En Marche. Pour Chantal Jouanneau, qui pilote le grand débat, cette polémique tombe au plus mauvais moment. Une fuite qui n'étonne pas l'entourage de l'ex-ministre, c'est pour nuire à l'organisation du débat national. Chantal Jouanneau dit comprendre l'agacement. Elle appelle même les futurs participants à ce débat, justement, à faire des propositions pour réviser ce salaire. Mais pas sûr que le message soit entendu. Le collectif de la France en colère s'est servi de cette information pour dès hier inonder les réseaux sociaux et inciter ses membres à ne pas participer à ce débat.
Et quand les deux chefs du gouvernement italien soutiennent les gilets jaunes, ne faiblissez pas, leur dit Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles. Je soutiens les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple, ajoute Matteo Salvini, l'autre vice-premier ministre d'extrême droite. Et tous les deux se réjouissent de cette nouvelle Europe en train de naître à 4 mois des élections européennes. En France, un détour par la campagne des européennes, justement, avec Benoît Hamon, le leader de Génération, à Lille hier, pour expliquer en meeting et au porte-à-porte que la vraie gauche, c'est lui. Laurence Perron l'a suivi pour France Inter.
Du porte-à-porte à l'ancienne, dans ce quartier populaire de Lille.
Bonjour, c'est Benoît Hamon. Est-ce que ton papa ou ta maman sont là? Tu n'ouvres pas hein, si ils sont pas là. Hein. T'es Monsieur Hamon, j'étais candidat à la présidentielle, viens dire bonjour dans le quartier.
Deux jeunes étudiantes colocataires qui lui expliquent pourquoi elles ont rallié la colère des Gilets jaunes.
Ils viennent pas que avec leur colère, ils viennent aussi avec plein de façons différentes de penser le monde. Enfin, quand on regarde... Bien sûr.
Il y a urgence à trouver des solutions. C'est là où Macron joue pas son rôle. C'est là où moi ça m'énerve. Quand t'as le pays dans cet état-là, t'es président de la République, sors de ton bunker, quoi.
En fermant la porte, elle glisse que de toute façon, elle ne vote plus. Benoît Hamon rejoint la salle du meeting, petite conférence de presse, au cours de laquelle il exclut tout rapprochement avec le PS, espère encore un sursaut des écologistes, des communistes, se dit en osmose avec place publique, étape Jean-Luc Mélenchon.
Ça le rend fou, mais il ne peut pas dire d'un côté je suis pas la gauche et détester le fait que je constate qu'il n'est plus de gauche. Puisque c'est lui-même qui le dit. Il est quand même curieux ce garçon. Je pense que Mélenchon aujourd'hui parle et fait parler de lui que c'est Le Pen qui va récolter des voix. C'est tout, c'est ma conviction. J'ai résisté longtemps à cette idée-là. Je peux vous assurer qu'au sein de la direction de Génération, je disais non, ils ne vont pas aller sur ce terrain-là, c'est pas possible. Bon.
Les gauches ne sont peut-être pas irréconciliables. Les anciens camarades du PS, assurément.
Laurence Perron, un coup de fil entre Emmanuel Macron et Donald Trump au sujet de la Syrie. Tous les deux sont tombés d'accord pour un retrait coordonné et réfléchi des troupes américaines, loin de l'annonce brutale de retrait proclamée mi-décembre à Washington. Et c'est la troisième semaine de shutdown aux États-Unis, troisième semaine de shutdown et un suspense nommé Trump. Le président annonce un discours à la nation ce soir et un déplacement à la frontière mexicaine jeudi, en pleine dramatisation sur la question du mur à 5 milliards de dollars qu'il veut faire construire et qui bloque l'adoption du budget par les démocrates et donc les salaires de 800 000 fonctionnaires au chômage technique. 17 jours, c'est extrêmement long pour cet employé fédéral que Grégory Phillips a rencontré en Virginie.
Quand elle fait ses comptes, Allison commence à sérieusement s'inquiéter. Il y a son prêt étudiant à rembourser, $400 par mois, plus le loyer et un projet d'achat de voiture qu'elle va repousser. C'est le premier shutdown pour cette jeune femme salariée de l'Agence fédérale de protection de l'environnement. Et comme tout le monde, elle ne sait pas combien de temps cela va durer.
Après 17 jours, je commence à être vraiment inquiète. Avec un président aussi peu conventionnel, on ne sait pas trop à quoi s'attendre dans les prochaines semaines.
Alors, pour gagner quelques dollars, Allison a trouvé une solution temporaire.
J'ai postulé pour faire du dog sitting, promener des chiens. J'ai du temps pendant la semaine. Et si ça dure, eh bien je devrais faire ça sans doute un peu. J'ai besoin d'argent liquide.
Ce vendredi, normalement, c'est jour de paye pour les employés fédéraux. Mais si, d'ici là, Trump, qui veut son mur à la frontière pour 5 milliards de dollars, et les démocrates n'ont pas trouvé de compromis, eh bien Allison devra se passer de salaire.
Je pense que sur ce mur, il faut une approche différente. Trump doit reculer un peu, accepter un compromis. Et il doit être attentif à ce que les gens veulent et à ce qui est bien pour l'Amérique.
Le shutdown le plus long de l'histoire américaine avait duré 21 jours, fin 95. À l'époque, le locataire de la Maison Blanche s'appelait Bill Clinton. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Il vaut presque 800 milliards de dollars, ce qui fait du géant Amazon l'entreprise la plus chère au monde, titre ravi à Microsoft à Wall Street cette nuit, alors que Samsung perd du terrain, bénéfice en baisse attendu pour la première fois depuis 2 ans, Samsung plombé par la concurrence des smartphones chinois.
Et c'est là qu'on trouve les derniers smartphones justement et toutes les machines du futur.
Au grand salon CES de Las Vegas, vitrine mondiale de la technologie où il faut être vu et primé, c'est encore mieux, comme vient de l'être la société française Lumi-In, auréolée du prestigieux Climate Change Award pour ses lampadaires innovants, tels des tournesols qui captent le soleil. Adrien Toffolet.
Une lumière diffusée par LED, moins énergivore que les ampoules, une tête flexible pour bien capter le soleil et adaptable à tout poteau déjà existant. L'entreprise Lumi-In équipe déjà de nombreux espaces publics et parkings privés dans des régions très ensoleillées, mais avec le Flex, elle compte bien installer cette technologie partout, comme l'explique François Vaut, l'un des cofondateurs.
Pour des clients en plus au nord de la France, on est dans une démarche de rendre nos lampadaires à la fois autonomes et s'il n'y a pas assez de soleil à ce moment-là, je peux rebasculer sur le réseau électrique.
Tout cela grâce à une alimentation hybride, solaire, stockée sur batterie et réseau pour compléter si besoin. Une innovation qui a déjà reçu le label Green Tech Verte du ministère de la Transition énergétique qui récompense les progrès qui mêlent écologie et numérique car ce lampadaire est aussi une potentielle source d'énergie pour des applications peu énergivores, recharge de téléphones ou d'objets connectés, capteurs de pollution ou encore détecteurs de risques naturels.
Vous êtes en camping à côté d'un cours d'eau, je mets un capteur de niveau d'eau. Si j'ai plusieurs lampadaires qui indiquent la même information comme quoi la rivière est sortie de son lit, à ce moment-là, il peut y avoir une information transmise aux pompiers pour que l'intervention puisse gagner quelques minutes pour sauver des vies humaines.
Des lampadaires intelligents et écologiques avec un potentiel marché mondial, ce sont des milliards de tonnes de CO2 qui pourraient ne pas être émises.
Et pour enseigner le numérique à l'école, Jean-Michel Blanquer crée le CAPES informatique. Ça n'existait pas jusqu'à présent, ce sera chose faite l'an prochain. Les élèves ont besoin d'approfondir leur sens logique grâce à la programmation, dit le ministre de l'Éducation. Enfin, énorme succès au théâtre. Vous avez entendu parler d'Edmond, d'Alexis Michalik. Edmond, pièce saluée par les spectateurs, par la critique. Voici le film au cinéma. Désormais, Alexis Michalik est passé derrière la caméra cette fois pour raconter la genèse de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Le film est palpitant, nous dit Stéphane Capron.
Alors, votre pièce comédie, tragédie, vous avez deux minutes.
Tragédie.
Et ce fut un succès qui ne se dément pas depuis 1897. Et c'est aussi un triomphe pour Edmond, la pièce d'Alexis Michalik, qui tient l'affiche du théâtre du Palais Royal depuis septembre 2016. Edmond raconte la course contre la montre de Rostand pour livrer à temps sa pièce. Alexis Michalik a écrit une saga romanesque à couper le souffle.
Il y a ce moment magique, ce jour de la première, où tout s'inverse, où tout à coup, une salle se prend en amour pour un personnage. Et ça arrive parfois au cinéma aujourd'hui. Mais c'était une chose unique à l'époque, puisque évidemment le cinéma n'existait pas. On était à la toute fin du 19e. Donc c'était encore le moment où le théâtre était roi et où le théâtre était le divertissement de masse. Parfois, ici, en France, nous qui sommes habitués à des bides et puis à des échecs, à jamais gagner, et bah, parfois il se passe un truc magique et ce soir-là, on gagne. Et on s'en souvient et c'est grâce à ce souvenir qu'on continue à avoir de l'espoir.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Putasse.
Edmond est un hommage brillant au théâtre, à son artisanat, à tous les métiers qui le composent. Ce film donne vraiment envie d'aller au théâtre.
Et les grands succès théâtraux donnent souvent de très bons films, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre, c'est bien l'hiver sur l'Est.
Oui, avec le retour de la neige, Nicolas, dès ce matin. Aujourd'hui, dès 500 mètres des Vosges aux Alpes, on attend jusqu'à 10 à 20 cm, mais des chutes plus faibles sur le massif central, pas plus de 2 à 5 cm. Alors, on a une dépression en fait qui est rentrée par la Manche cette nuit, et on la retrouve ce matin de l'Alsace au nord de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, les éclaircies donneront un ciel un petit peu plus lumineux des côtes atlantiques à la Bretagne, au Pays de la Loire, à la Normandie et sur le Nord-Pas-de-Calais. Et autour de la Méditerranée, votre matinée sera ensoleillée, mais vantée.
Et la dépression va se déplacer vers le sud-ouest cet après-midi.
Oui, il va neiger sur le massif central et cette nuit sur les Pyrénées, mais pas plus de 2 à 5 cm également. Et le ciel va se charger sur l'Aquitaine. On aura des éclaircies sur l'ouest, voire avec un peu de chance jusqu'en région parisienne. Et puis le vent d'ouest sera sensible sur tout le pays. En Méditerranée, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 110 km par heure. Le mercure ne va pas beaucoup changer par rapport à hier. Plus haut, c'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, avec 9 attendus à Bordeaux, comme à Paris et à Lille. Il fera aussi doux à Nantes qu'à Marseille avec 11 degrés. C'est vers Aurillac avec 3 degrés qu'il fera le plus froid. C'est vers Toulon et Bastia qu'il fera plus doux avec 16. Et demain, refroidissement pour tout le monde.